Cette formulation peut étonner certains parmi vous. En effet, le credo que nous connaissons traditionnellement est rédigé ainsi. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Vous voyez que c'est beaucoup plus court que ce que nous avons lu en premier. Et c'est d'ailleurs « je crois », credo en latin, qui a donné son nom à l'ensemble du texte. Alors pourquoi proposer une formulation différente? En fait, ce texte, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Et c'est ce que nous avons choisi d'étudier. Il est issu de longues et âpres discussions théologiques qui ont conduit à peser chaque mot contenu dans le texte. Il est plus développé que le credo, que je dirais habituel, que vous avez sans doute appris par cœur, parce qu'il tient à préciser clairement chaque élément de notre profession de foi. Des hérésies commençaient à se développer au sujet de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les pères de l'Église se sont réunis en deux conciles, celui de Nicée, celui de Constantinople, et ont décidé d'un commun accord de conserver le texte que je vous ai lu ce matin. Alors, grâce à ce petit tableau, j'espère que vous voyez quand même assez, nous voyons que c'est le centre du texte qui comporte de nombreuses précisions par rapport au texte habituellement connu. Ceux qui connaissent parfaitement le prologue de l'évangile de Jean n'ont pas de mal à reconnaître certaines de ces affirmations. En effet, nous lisons « lumière de lumière ». Et, en tout cas pour moi, ça fait référence, dans ma connaissance, à 1 Jean 9, par exemple. 1 Jean 9 qui nous dit « cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain ». Nous lisons « né du Père avant tous les siècles ». Et en fait, ça me rappelle à moi le verset 1 de Jean 1. « Au commencement, la parole existait déjà. » « Vrai Dieu de vrai Dieu » est une autre affirmation qui se retrouve, qui a écho en Jean 1, verset 1. « La parole était Dieu ». Alors, nous pourrions poursuivre ainsi et trouver chaque affirmation avec son corollaire dans le texte biblique, que ce soit Jean ou ailleurs. Pour ma part, ce que j'aimerais partager avec vous plus en profondeur ce matin concerne les affirmations « né du Père avant tous les siècles » et puis « est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme ». Et enfin, nous verrons ce petit bout de phrase « pour nous les hommes ». Donc, ce sont toutes des parties de ce texte du credo. Alors, lorsque nous entendons que Jésus est né de la Vierge Marie, nous pensons immédiatement au récit de la Nativité et de cet événement que nous venons de fêter à Noël. Pourtant, ce matin, je vous invite à tourner nos regards vers deux passages du prophète Ésaïe. Dans le chapitre 66... Quand on parle de Jésus, Ésaïe, vous avez pensé 53. Eh bien non, ça va être 66. Et c'est le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Donc, je vais lire avec vous Ésaïe 66, les versets 7 à 14, et puis 19 à 21. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil? Et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde? A dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur tout comme une herbe qui verdit. Car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Et nous continuons verset 19. Je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, Poul et Loud, dont les gens bandent l'arc, à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Et ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans des récipients purifiés au temple de l'Éternel. Et même parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des lévites, dit l'Éternel. Alors, loin de moi l'idée d'être experte en prophétie et l'idée de connaître tous les sens cachés de la parole de Dieu. Pourtant, ces versets d'Ésaïe résonnent en moi d'une façon particulière. Nous savons que dans les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, Dieu cache des révélations pour les siècles futurs. Ainsi, effectivement, Ésaïe 53 est reconnu par tous les théologiens comme l'annonce de la venue du Messie. Nous y retrouvons la description de la vie de Jésus sur terre jusqu'à sa crucifixion, sa résurrection et sa montée au ciel près du Père. Eh bien, le chapitre d'Ésaïe 66 est lui aussi prophétique quant à la venue du Christ. Eh bien, j'ai quand même mélangé mes feuilles, me semble-t-il. En tout cas, il me manque une feuille. En tout cas, je voudrais voir avec vous trois points qui sont cités dans ce passage. Et ces trois points qui sont nés du Père avant tous les siècles. Lorsque nous lisons le verset 7, oui, non, c'est bon. Ben, finalement, non, c'est moi qui suis stressée. Donc, merci, Alexis. Ils ont les feuilles là-bas à la technique pour si jamais j'ai un souci. Donc, je vois qu'ils sont vraiment en train de bien suivre et je les en remercie. Alors, lorsque nous lisons au verset 7, « Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. » Effectivement, je l'ai déjà dit, comment ne pas penser à Jean 1,1 qui nous affirme qu'au commencement, la parole existait déjà. Et je l'ai déjà cité pour illustrer cette affirmation du credo, « Jésus existait déjà avant tous les siècles ». Le fait que le prophète nous déclare que Sion a déjà enfanté avant d'être en travail nous confirme que l'enfant, le garçon, est-ce qu'il n'est pas question là de Jésus, existe déjà avant même que l'on puisse penser à sa naissance effective. Je ne parle pas des 9 mois d'attente de la maternité, mais je pense du temps bien avant. Ésaïe nous parle de Jérusalem, de Sion, Dans l'Ancien Testament, ces deux termes sont souvent synonymes. Sion, c'est une des collines sur laquelle Jérusalem est construite. Et peu à peu, Sion, dans la bouche des prophètes, prend le sens de ce qui est marqué par la présence et la bénédiction de Dieu, nous déclare Sébastien Doane dans un de ses articles. Donc, par la prophétie d'Ésaïe, nous apprenons clairement, bien avant la naissance du Messie, de quel lieu viendra le salut pour le peuple d'Israël. Définitivement, c'est à Jérusalem que depuis longtemps, Dieu a décidé d'engendrer le salut pour son peuple. Et au moment de la naissance de Jésus, cela fait bien longtemps que dans le Père, son Fils existe déjà, puisque ça a été révélé aux prophètes. Ésaïe, c'était 800 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe reçoit de Dieu cette connaissance de la préexistence du Seigneur avant même qu'il soit engendré. Alors, la formulation prophétique risque parfois de nous embrouiller. Et nous comprenons bien qu'il y a un mystère par rapport à la façon dont le fait est exprimé. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Pour ceux qui ont eu un enfant, les femmes qui ont accouché, ça paraît tellement bizarre, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une formulation prophétique, poétique, comme si l'enfant est déjà là avant que l'accouchement n'ait lieu. C'est vrai que les paroles humaines ont du mal à décrire ce que Dieu révèle aux prophètes. Prenons le deuxième point. Est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, a été fait homme. Alors, cette vérité du credo ne se retrouve pas textuellement dans le texte que nous lisons ce matin. Nous venons de voir que Sion désigne peu à peu Jérusalem. Dans le psaume 87, au verset 2, il est déclaré « L'Éternel aime la ville de Sion plus que tout autre lieu du pays de Jacob. » Et peu à peu aussi, dans les prophètes, Sion est personnifié. Dans le texte d'Ésaïe, Sion est comparé à une femme qui enfante. Et beaucoup y ont vu là une allusion à Marie. Tout comme Jérusalem est la ville aimée de Dieu et portera le salut d'Israël, Marie, la jeune fille vierge remarquée de Dieu, fille de Sion, c'est aussi ainsi que sont appelés les habitants de Jérusalem, ceux qui aiment et qui servent Dieu. Donc Marie, fille de Sion, portera le salut des nations. Et nous pouvons alors voir une analogie entre l'annonce faite par l'ange à Marie en Luc 1, 35. L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Sion a enfanté un garçon au verset 7 d'Ésaïe 66. Et nous pouvons lire au verset 9 que c'est par la seule volonté de Dieu que les choses s'accomplissent. En effet, il est écrit « Et quoi ? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître ? Dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde ? A dit ton Dieu. » Oui, nous comprenons que Jésus a été envoyé, qu'il est venu de son Père au milieu du peuple d'Israël pour y apporter le salut. Alors, on ne sait pas encore au moment où le prophète écrit quelle forme prendra ce salut. Mais nous y lisons clairement que Dieu s'y implique. C'est lui qui veut faire naître un garçon. Il a la volonté que naisse une nation nouvelle. Et avec l'affirmation « à peine en travail, Sion a mis des fils au monde » du verset 8, nous pouvons bien imaginer que, dès la naissance de Jésus, une ère nouvelle s'est ouverte pour tous les croyants. De nouveaux fils sont la descendance du premier fils. Je me suis aussi laissée interpeller par l'utilisation du vocabulaire autour de l'accouchement. Est-ce que vous avez remarqué, si vous reprenez le début du texte que nous avons lu, on y trouve pas seulement une fois. Ce que je vais citer, certains éléments sont dits plusieurs fois dans le texte. Être en travail, enfanter, éprouver des douleurs, donner le jour, naître, mettre au monde, venir au monde. Et ça donne un éclairage particulier sur la prophétie d'Ésaïe. Ça nous parle d'un être humain qui va arriver pour accomplir le plan de Dieu. Les Israélites ne s'y sont pas trompés, eux qui attendaient un Messie qui viendrait les délivrer. Au fil des siècles, ils ont fouillé, cherché, creusé les Écritures et se sont fait une image déformée du Messie. Dans le livre « Pour une foi réfléchie », nous pouvons lire « La croyance populaire espérait un roi Messie tout à fait terrestre et politique, un roi dont la tâche prioritaire serait de vaincre tous les ennemis d'Israël. L'autre attente messianique, mieux avisée, à l'instar de la communauté de Qumran, fixait les yeux sur un prophète qui veillerait sur le respect de Dieu. Au verset 12, nous avons lu « Je vais faire affluer la paix vers le garçon que Dieu va faire naître sera l'homme qui pourra accomplir cette œuvre, qui sera à l'autre. En Israël, tous seront consolés, restaurés. » Et au verset 14, c'est une phrase forte que je lis. « Votre cœur se réjouira, votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. » Nous avons entendu aussi ce matin ce verset d'Ésaïe 40. Et cela m'amène à mon troisième point. Dans le credo que nous avons lu ce matin, les Juifs attendaient un Messie qui les délivrerait de leurs ennemis ou qui établirait une loi stricte en Israël. Dieu leur annonce une ère nouvelle où chacun sera consolé. Allaité, bercé comme sur les genoux de sa mère, nous dit le texte. Mais bien plus, ce garçon qui va naître en Sion sera comme un signe au milieu des nations, au verset 19. Dieu ne salue des Israélites, mais son plan de salut est pour nous les hommes. Je le prends dans le sens humanité. Comme l'affirme la portion du credo que nous avons lu ce matin. La prophétie des n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont vos frères. C'est ainsi que le témoignage de tous débordera comme un torrent. Et la prophétie d'Ésaïe se termine par ces images de personnes qui partent au loin pour ramener un peuple nombreux auprès du Seigneur. Et est-ce que vous avez noté comment ils le font? C'est amusant pour nous, gens du XXIe siècle, mais c'est quand même très parlant. Sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou des dromadaires, jusqu'à Jérusalem, que nous voulons aborder aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne vous ai pas lu la fin du texte. Ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin, c'est mon émerveillement en découvrant cette prophétie. En fait, quand on a découpé nos différentes prédications pour ce programme sur le credo, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'inspirer un texte qui ne soit pas justement les textes de la nativité qu'on a lus jusqu'à... Je connaissais Ésaïe 53, mais je ne connaissais pas aussi bien Ésaïe 66. Et c'est ce livre qui est venu en réponse à ma prière. Va voir Ésaïe 66. Et vraiment, j'ai été émerveillée. Je savais que ce texte était prophétique sur la venue du Seigneur, mais je ne le connaissais pas tellement bien. Et je ne savais pas qu'on pouvait y retrouver aussi bien ce qui est devenu notre vie avec la naissance de notre Sauveur. La consolation, la paix, le partage de ce salut avec les autres nations. Et surtout, l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Ça m'a convaincue, si c'était encore nécessaire, que cette vie nouvelle que Dieu veut pour chacun de nous, je ne peux pas la garder pour moi. Cela m'a convaincue qu'en fouillant dans la Bible, on trouve des trésors. Alors oui, pour notre salut, Jésus est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Oui, je le crois et je veux le proclamer à tous pour qu'eux aussi reçoivent ce salut. Et vous ?